Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, la télévision est au cœur de notre radio. Son langage hier, demain, ses évolutions possibles sur le web. Jeudi, un projet fictif de télévision éthique au théâtre. Et vendredi, l'écriture de scénarii de séries TV comme possible métier d'avenir. Aujourd'hui, enquête au long cours et mise en scène de la révélation. C'est parti.
La télévision transformera votre vie.
Comment cela, la télévision transformera ma vie?
Oui, la télévision transformera votre vie.
Grâce à la télévision, sans quitter votre fauteuil, vous pourrez assister de chez vous à tous vos spectacles préférés.
Théâtre, variété, musique, voyage, actualité, match, compétition sportive.
Que vous présente chaque semaine la télévision française.
Vous devez avoir chez vous un appareil de télévision.
Et il ne vous en coûtera que quelques milliers de francs par mois seulement.
Isabelle Roberts et Raphaël Garrigos, journaliste et fondateur du site lesjours.fr, disaient hier à ce micro qu'il est très difficile d'enquêter sur la fabrique de la télévision, qui plus est, sur la prise de pouvoir de Vincent Bolloré à Canal+, qu'il y régnerait la terreur empêchant toute parole libre. Dans une vidéo du site arrêtsurimage.net, cette fois, Daniel Schneiderman interview entre autres l'économiste Julia Cagé et Jean-Baptiste Rivoire du magazine spécial Investigation sur Canal+. La liste des sujets d'enquête refusés depuis l'arrivée de la direction Bolloré est édifiante et fait le tour du web. Peut-être arrive-t-on aujourd'hui aux limites criantes d'un modèle général de financement des médias que dénonçait en septembre dans une tribune adressée au CSA le collectif Informé n'est pas un délit. Attendons l'examen en mars de la loi Patrick Bloch. Pour l'instant, il est 14h passé de 2 minutes. Bienvenue à vous dans les Nouvelles Vagues. Et ces nouvelles vagues, nous les pensons portées par des êtres et nous les pensons consécutives à des expériences marquantes. C'est pourquoi nous demandons chaque semaine à quelqu'un de choisir 5 de ces moments-là et de nous les raconter. Inès Duperron a rencontré la comédienne Charline Grand et aujourd'hui, elle évoque un trajet qui l'a menée pendant plusieurs mois, chaque jour, sur les lieux de répétition d'un théâtre paysage. C'était à Bamako et le trajet devenait au fil du temps aussi important que la représentation elle-même. Récit vers 14h50. C'est le deuxième moment d'une semaine télévisuelle. Hier, les Gary Berts desjours.fr et Samuel Gontier de Télérama racontaient leur profession de journaliste spectateur et leur analyse du bruit continu de nombre de programmes de flux, je cite. Aujourd'hui, nous quittons le flux pour l'événement d'un soir. Si le magazine Cash Investigation diffusé sur France 2 est produit par Première Ligne depuis 2012 et le fruit d'un rare, voire très rare, travail d'enquête sur la longueur, ces révélations sont mises en scène pour faire choc. C'est aussi que précisément, les informations dévoilées sont choquantes. Le magazine a pour spécificité de mettre en lumière les empêchements rencontrés pour obtenir informations et données, empêchements qui constituent en soi une information supplémentaire. Le dernier numéro de Cash Investigation, une enquête de Martin Boudot, a été diffusé le 2 février dernier sur France 2. Il est visible actuellement sur le site de la chaîne pour ceux qui l'auraient manqué et il avait pour thème les enjeux environnementaux et de santé et politique liée à l'utilisation massive de pesticides. Emmanuel Gagné, vous êtes journaliste, le co-rédacteur en chef de la saison 4 de Cash Investigation. Bonjour à vous.
Bonjour Marie.
C'est un magazine qui est présenté par Éluse Lucet, qui est donc l'autre co-rédacteur en chef.
Elle est effectivement co-rédacteur en chef de l'émission.
De l'émission. Et vous, Jean-Baptiste Renaud, vous êtes aussi journaliste, vous êtes réalisateur de documentaires d'enquête investigation pour la télévision, et c'est vous qui avez signé la réalisation de celui-ci ?
Non, c'est Martin Boudot.
C'est Martin Boudot.
Le mien est en cours de fabrication.
Alors c'est pour ça juste, d'abord pour clarifier, quand on dit une enquête signée Martin Boudot, c'est-à-dire que c'est la personne qui réalise l'émission ?
C'est le réalisateur, c'est lui qui va faire l'enquête pendant un an, s'immerger dans les dossiers, aller interviewer les gens qu'on cherche à interroger. Et ensuite, Élise Lucet vient sur les interviews de patrons au terme de l'enquête.
Alors, puisque la dénomination, par exemple, des métiers à la radio et à la télévision sont un peu différents, donc le réalisateur, c'est le journaliste enquéteur.
C'est le journaliste. Moi,
alors,
je préfère le terme de journaliste.
D'accord,
que
alors,
de réalisateur.
Moi aussi.
D'accord. Et que fait le rédacteur en chef, alors?
Rien.
Non.
Le rédacteur en chef, il est là, d'une part, pour initier les sujets, pour accompagner le journaliste pour trancher par moment et puis pour animer l'équipe de rédaction. Quand on travaille pendant un an sur un sujet, c'est difficile. Parfois, on peut se perdre ou avoir le sentiment de se perdre. Donc, les journalistes viennent vous voir et disent « voilà, j'ai plusieurs pistes, qu'est-ce que je fais, vers quoi on va ?» Et puis alors là, ce qu'on fait, on fait de l'accouchement. On reprend les termes de l'information, on rediscute et on prend des décisions sur la suite à donner, sur l'enquête.
Jean-Baptiste Renaud, vous dites que vous êtes au travail sur un futur magazine, du coup, Cache Investigation. Vous travaillez avec combien de personnes ?
On travaille avec des enquêteurs, qui sont des jeunes journalistes. Actuellement, ils sont trois à la rédaction. Ces enquêteurs-là se partagent un peu le travail entre ce qu'on appelle, nous, les réalisateurs. Donc, les réalisateurs ont leur thème pendant un an, et les enquêteurs, qui sont des journalistes plus jeunes, eux, les aident pendant cette période-là. C'est des enquêteurs, des réalisateurs qui suivent le sujet pendant un an, des rédacteurs en chef. Voilà l'équipe, c'est assez réduit au final.
On se parle beaucoup quand on décide d'un sujet, ça part parfois d'une idée d'un monteur, ça peut partir de l'idée d'un enquêteur, ça peut partir d'une idée d'Élise, ça peut partir d'Élise Lucet, pardon, ça peut partir d'une idée que j'ai avec Romain Verlet, qui est un rédacteur en chef adjoint avec moi.
Voilà. Ça peut partir du producteur, puisque j'ai cité Première Ligne.
Et ça peut partir d'une idée du producteur, parce que ce soit Luc Herman ou Paul Moreira sont d'abord des journalistes et l'agence Première Ligne est d'abord une agence
et spécialisée en plus
dans l'investigation. Dans ce genre voilà, donc ils ont vraiment l'habitude, ils suivent parfaitement l'actu, l'info, et donc ça peut partir aussi d'eux. Donc on en parle, on en discute, ça mûrit, on essaie de voir si effectivement cette idée, elle peut se décliner sur 90, 110 minutes. C'est long, 110 minutes à la télévision. Donc il faut effectivement que cette idée, elle puisse amener à des révélations et puis elle puisse être systémique. C'est-à-dire que on va pas s'intéresser à un fait juste parce qu'il existe. On n'est pas dans la logique du fait divers. On est plutôt dans une logique qui veut qu'une information, une histoire, nous raconte le système dans lequel on vit, nous raconte notre société, nous raconte le rapport de force au sein de l'économie.
Et souvent, ce sont des histoires qui sont vraiment rhizomiques hein, et qui se déploient comme ça sur plein de domaines d'actualité et plein de domaines tout court. Quand on parle de un an de travail, c'est un an de travail à plein temps ?
C'est un an de travail à plein temps. On est au mois de février. J'ai commencé sur ce sujet-là au mois de mai dernier. C'est toujours en cours.
La période de montage dure combien de temps ?
13 semaines.
13 semaines.
Voilà. C'est presque 3 mois de montage en salle parce que, effectivement, il y a toute une matière très riche qu'on a récoltée au cours des interviews, au cours des interpellations qu'Élise Lucet a fait avec les interlocuteurs, et que ça se fait de gré ou de force. Donc il y a une matière très 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 riche, et il faut la scripter, il faut la réécouter, il faut lui donner sens, et puis il faut aussi vous parliez de mise en scène de
l'information. On y reviendra bien sûr sur la
l'information. Mais effectivement, après, il faut que cette information, elle prenne son sens, elle prenne son relief, et qu'on mette en lumière certaines choses plutôt que d'autres.
J'avais une idée terrible, qui était à mes yeux extrêmement importante, c'est qu'encore une fois, je revenais de la guerre avec un micro. Et je me disais, mais nom d'un chien, tu parles le verbe. Ah là 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 là. Et s'ils pensent que tu mens, parce que tu viens de voir ça, tu viens de vivre ça, tu vis ça, et tu leur racontes. Mais c'est la vérité. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Il n'y a qu'une chose, c'est l'image. C'est l'image, c'est la photo, mais mieux l'image vivante. La caméra. Car le spectateur, voyant ce qui s'est passé, ce qui se passe, croira. Et à ce moment-là, le verbe va aider l'image. Et si on parle, on ne parle pas de ce qu'on voit, mais au contraire, on fait le contrepoint grâce à ce qu'on voit. Ce qui est quand même très différent. Et j'ai dit, qu'est-ce qu'on va faire? Faut le faire tous les jours, on va faire un journal télévisé. Alors on m'a traité de fou, on m'a tout dit. Et puis, j'ai tenté, j'ai essayé, j'ai fait des petites bobines. Alors, le directeur général, Vladimir Porcher, a bien voulu m'écouter. Il m'a permis d'engager un caméraman. C'était Michel Vakevitch, je l'avais connu derrière les chars de Patton. Lui, il avait une caméra, moi j'avais un micro. Et j'ai dit, si on réunissait les deux, ça serait pas mal, ça serait pas bête. On pourrait faire le même travail. Il avait été, lui, avant, aux Actualités françaises, je lui ai dit, ce sont pas des petites séquences courtes, il faut faire plus long, il faut comprendre, il faut que le geste, n'oublions pas qu'on va s'adresser à des gens qui sont chez eux, loin de l'endroit où ça peut arriver. Et il faut leur montrer, mais il faudrait qu'ils comprennent d'eux-mêmes et qu'ils interprètent eux-mêmes. Par conséquent, on leur a fait un pas en avant dans l'information. Alors, on a fait des machins. Je peux pas dire autrement que des machins.
Des machins. Ils ont fait des machins. C'est une archive de 1987, juillet 1987, dans les Nuits Magnétiques diffusées sur France Culture. C'est Pierre Sabag, un grand monsieur, une grande personnalité de la télévision française, et qui parle de son obsession en rentrant de la guerre, de dire s'il n'y a pas d'image vivante accordée à du verbe, alors on ne me croira pas. Ici, la vérité et l'importance du vrai et de la suspicion du mensonge mis au cœur du travail télévisuel, dans la présentation du producteur Première Ligne, il est question de documentaires qui font bouger les lignes et d'un rapport à la vérité, d'un rapport au dévoilement. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que c'est une façon de répondre à une défiance populaire à l'égard des médias que ce genre de production télévisuelle ?
Probablement. Je suis convaincu qu'il y a une demande pour plus d'explications, plus de compréhension peut-être du monde qui nous entoure. C'est pour ça que Emmanuel mentionnait des sujets qui sont des sujets qui sont systémiques, parce que en passant un an sur un sujet, on a forcément envie de raconter tout ce qui se passe autour et toutes les implications que ça a. On n'arrive pas toujours, c'est toujours un peu plus compliqué, mais on essaie au maximum de coupler cette vision systémique du monde avec des éléments très concrets de preuves. On est à la recherche de preuves en permanence. On a un an pour trouver des preuves. On peut trouver des preuves le premier jour de l'enquête, au bout de 2 mois, de 3 mois d'enquête, le dernier jour de montage, ça peut arriver aussi. Et après, toute la question reste de savoir comment on présente ces preuves et comment on les fait passer dans le public. Et quel est l'engagement qu'on met. C'est-à-dire que l'émission à Cache Investigation a une crédibilité. Et à chaque fois qu'on présente une preuve, on se renforce, je trouve, de la crédibilité de l'émission. C'est notre recherche de preuves qui nous guide, et c'est pour elle qu'on travaille.
Dans le paysage télévisuel français aujourd'hui, il y a quelles autres personnes font le job ou font le boulot ?
On n'est pas les seuls. Nous, on a une chance folle que nous offre France 2. Bon. C'est de pouvoir travailler pendant un an. On a les moyens financiers de travailler pendant un an. C'est quelque chose d'absolument incroyable.
Ça, vous êtes les seuls ?
Oui, ça, on est les, j'ai envie de dire, malheureusement. Ou alors, si vous le faites, c'est un réalisateur dans son coin, mais il va pas en vivre, quoi. Donc, nous, on a les moyens de le faire, et de le faire dans de bonnes conditions. Et ça, c'est vraiment exceptionnel aujourd'hui.
Comment vous expliquez, puisqu'on parlait à l'instant d'une demande populaire pour, justement, plus d'éclairage sur le monde dans lequel on vit, comment vous expliquez que la télévision française publique ne produise que un seul magazine qui prenne le temps, et un temps très nécessaire, pour donner à comprendre le monde dans lequel on vit ?
Il y en a d'autres. Il y a nos camarades de compléments d'enquête qui font, moi je trouve, un boulot formidable dans des temps qui sont très courts. Il y a Spécial Investigation. Donc il y a quelques soucis aujourd'hui que vous avez évoqués, mais bon, ça a été largement médiatisé. Il y a aussi Pièce à Conviction qui fait ce travail. Je n'ai pas travaillé qu'à Première Ligne et fait la rédaction en chef pour des enquêtes pour Envoyé Spécial, qui était vraiment de l'investigation. Le problème aujourd'hui, c'est effectivement, quand on travaille dans une agence de presse, c'est le financement de ces enquêtes. Et nous, on a la chance, à Première Ligne et à Cache, de ne pas être dans les règles normales du financement des enquêtes. C'est-à-dire ? À la télévision. Pour faire simple, hein, je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais aujourd'hui, quand vous faites un 26 minutes, où, vous touchez 40 000 euros. Ça peut paraître énorme.
40 000 euros de la chaîne de la maison de prod.
Tout à fait. Ça peut paraître énorme hein, pour les gens, 40 000 euros. Mais là-dessus, il faut payer le journaliste, il faut payer la structure, il faut payer le caméraman, le preneur de son, le monteur. Il faut aller se rendre sur place s'il faut aller à l'étranger. Donc, c'est beaucoup d'argent que de faire une enquête. Et voilà. Et donc, il y a 40 000 euros. Quand on fait un 52 minutes, ça va être autour de 80 000, 100 000 euros. C'est mieux, mais pareil, ça nécessite beaucoup de temps et des moyens. Et aujourd'hui, effectivement, à Cash, on a plus de moyens. Je pourrais pas vous dire combien parce que France 2 ne souhaite pas, mais on a plus de moyens pour le faire. Et ça, c'est important. Voilà, c'est aujourd'hui le temps, l'argent, ça permet de faire de l'investigation.
Tout à l'heure, vous parliez de l'importance aussi du choix des sujets. France 2 qui finance à hauteur d'un budget qu'il ne veut pas révéler. Est-ce qu'il a le choix dans le choix des sujets?
Il a son mot à dire. Il a son mot à dire.
Pas de refus comme stipulé à Canal+ sur les sujets d'enquête.
Non, il y a une discussion, mais il n'y a pas de refus et parfois sur certains sujets, il n'y croit pas et on revient à la charge, on va sur, on argumente et on a gain de cause ou on peut avoir gain de cause. C'est une discussion, mais comme il peut y avoir une discussion dans un journal sur la une, sur le choix des sujets, c'est pareil, ça se fait de la même
sauf
manière.
Sauf que ce sont deux entreprises différentes.
Oui, ce sont des entreprises différentes, mais on a la chance aussi d'avoir Élise Lucet, co-rédactrice en chef, qui est à France 2.
Et qui a un pied dans les deux.
Et donc ça, c'est très bien.
Oui, bonjour, je vous appelle par rapport à ma demande d'accès aux données sur les pesticides que j'ai faites il y a 5 mois. Vous avez du nouveau ?
Non, rien. J'ai bien transmis toutes les informations dont vous avez discuté, etc. Mais j'ai pas de retour à ce stade.
Mais si ça prend autant de temps, c'est parce que c'est sensible ?
Oui, oui, c'est des données qui sont sensibles. La diffusion provoque toujours des discussions.
Merci beaucoup, madame.
Bon courage, surtout pour vous.
Nous avons longtemps attendu. Longtemps espéré. 7 mois après notre première demande, faut se faire une raison. Impossible d'avoir accès aux chiffres des pesticides en France. Alors, on a dû appeler nos sources, nos informateurs. On ne peut pas vous montrer leur vrai visage, mais voilà à peu près comment s'est déroulée la réunion des sources de Cash.
Bon, les petits gars de Cash ont encore besoin de nous. Cette fois, ils ont besoin d'avoir accès aux chiffres des pesticides en France. Quelqu'un a quelque chose ? Christian, toi qui as toujours un tuyau.
Ah non, je suis à sec, moi. Je leur ai déjà tout filé pour le cash sur les maisons fiscales.
Ok, Guy-Louis. Moi, j'ai aucune info. Depuis le scandale du Watergate, je suis has-been, je le sais bien, de toute façon, les gars. T'étais le meilleur, Guy-Louis.
Mais moi, c'est pas un problème. Je les ai, les chiffres sur les pesticides.
Oh, l'autre, hein.
Je les ai tous, année par année, depuis 2008.
Ok, merci, Jean-Cyril. J'appelle les journalistes de cash. Allô, Élise, c'est ok.
Grâce à Jean-Cyril, nous avons donc récupéré les chiffres secrets du gouvernement sur les pesticides en France. Plus de 800 000 lignes qui recensent les ventes de pesticides, produit par produit, département par département, année par année. La base de données est gigantesque.
Conclusion, avoir toujours un Jean-Cyril dans son répertoire de téléphone portable. C'est un extrait de ce dernier numéro de Cash Investigation diffusé le 2 février dernier sur France 2, un numéro consacré aux pesticides. Ici, un exemple de mise en scène. Tout à l'heure, vous disiez que à ce moment du montage et de l'organisation des rushs et l'organisation des informations, il faut trouver des mises en forme, il faut trouver des mises en récit, éventuellement les fictionnaliser. Cette mise autour de la table, entre guillemets, des sources de l'équipe de Cash, c'est une mise en scène qui permet de ne pas filmer cette réunion des sources. Ça veut dire que vous avez d'année en année une équipe de ces sources-là ?
Non, on a. Les sources, elles sont très diverses et elles sont évidemment liées à l'enquête. C'est une forme de parabole du travail. Moi, ce que j'aime bien là dans cette petite mise en scène, justement, faite par Martin Boudot et par son monteur Mathieu Lair, c'est que comme on ne peut pas parler de la source, ben on va jouer avec cette idée de la source. Et puis il faut voir qu'à ce moment-là, on arrive dans un moment où on parle de chiffres, de choses complexes, de noms un peu ésotériques comme le chlorpyrifose, l'atrazine, voilà. Et donc c'est un peu lourd, hein. On n'a que des fichiers et des listings très longs à montrer avec des noms un peu complexes comme CMR, cancérigène, mutagène, reprotoxique. Donc je pense que pour permettre aux téléspectateurs de d'ingurgiter ces informations-là, le passage par le second degré, par le rire, fait aussi du bien. Ça permet d'introduire aussi un peu de distance par rapport à ce qu'on fait.
C'est une distance qui sert à quoi, selon vous ? Parce que c'est aussi une distance qui pourrait éventuellement introduire un manque de sérieux ou quelque chose de l'ordre du risible et mettre sur le même plan de la fiction, éventuellement un divertissement et une enquête d'information très sérieuse qui a des répercussions sur la santé, sur l'environnement et sur la politique telle que par ailleurs vous le démontrez.
Non, il faut faire le pari de l'intelligence du téléspectateur. Il sait très bien quand on déconne et quand on est parfaitement, parfaitement sérieux.
C'est juste la petite pause que vous lui aménagez pour ses neurones.
Je pense qu'à la fois c'est une pause et puis c'est une manière aussi nous de pas trop nous prendre au sérieux quoi. Voilà, on s'inspire aussi beaucoup du Canard Enchaîné qui dit des choses très sérieuses avec un ton malicieux, persifleur. Et je pense que ça aussi c'est une manière de pas non plus trop en rajouter sur ce soir. On va vous dévoiler. Attention,
oh, ça va, vous le faites pas mal pendant 8 minutes à l'introduction de Cache Investigation. C'est clairement ça. Hein. C'est ce soir on va vous révéler.
Oui, ça c'est vrai. Mais ça
c'est 8 minutes de télévision qui sont vraiment costauds. Hein. Je les ai pas passées pour vous épargner.
Non, mais ça c'est vrai. Mais ça c'est aussi. Il faut voir que, à la différence d'un journal ou d'un site web où il y a une démarche volontaire du lecteur ou de l'internaute d'aller chercher l'information.
Il faut le capter.
Bah là, il faut le capter. Il faut le capter. On est,
méthode médiatique.
Ouais, on est un peu sur la place publique là, et puis il faut faire un peu de roulement de tambour pour attirer le téléspectateur. On est en prime. Il faut voilà. Si l'émission elle est pas vue, vous aurez totalement raté votre effet quoi.
Il y a une recherche justement de reprise, c'est-à-dire le travail aussi sur ces petits formats qui sont éventuellement divertissants, qui sont éventuellement drôles ou frappants. C'est une possibilité pour vous d'être pris par exemple par les réseaux sociaux ?
Oui, par les réseaux sociaux, oui, mais je crois qu'au-delà de ça, la vraie recherche de reprise, c'est une recherche de reprise dans le débat public. Moi, en tout cas, c'est ça, et je pense que tous les réalisateurs de Cache sont dans le même cas. C'est une vraie réussite, c'est quand le sujet est repris dans le débat public, quand il s'impose dans le débat public. C'était le cas avec le Cache sur les pesticides qui a provoqué une espèce de prise de conscience, ou du moins on a remis à l'ordre du jour politique un sujet qui ne l'était pas. Et je trouve que c'est ça l'intérêt de cette émission.
Médiatique
et l'objectif.
Ou politique, qui sont deux sphères différentes comme ordre du jour.
Politique. Quand Édouard Perrin travaille sur l'affaire LuxLeaks et qu'il dévoile comment des États européens et des entreprises font des accords, des tax rulings pour, de manière tout à fait légale, faire de l'optimisation fiscale.
Ça fait réagir dans les cabinets ?
Ça fait réagir et derrière, effectivement, ça fait bouger les lignes. C'est ça aussi qui nous importe. Hein. La reprise médiatique, oui, elle va peut-être aider effectivement à ce que le sujet soit plus vu, mais vraiment, ce qu'on cherche, c'est que ça fasse bouger les lignes. Alors, on n'est pas naïf, on sait que ça va pas faire forcément beaucoup bouger les lignes, mais que parfois, voilà, ça aide. Sur les pesticides, par exemple, Marie-Monique Robin avait déjà travaillé sur le Roundup, sur Monsanto, ça a avancé, et nous, on amène aussi notre pierre à l'édifice, et on secoue un petit peu les choses.
Y compris quand c'est à l'échelle du gouvernement, par exemple, il n'y a pas de conflit d'intérêt entre une télévision publique, France Télévisions, France 2, achetant ce documentaire à première ligne, et Stéphane Le Foll, qui, dans une séquence qu'on entendra tout à l'heure, se fait légèrement bousculer par Élise Lucet.
Absolument pas. Pas du tout.
Vous vouliez réagir, Emmanuel Gagné ?
Jean-Baptiste Renaud.
Non,
je voulais ajouter seulement que là on se rend compte que Cache Investigation est différent. C'est que c'est l'audience qui lui donne la force de ses révélations et c'est l'audience qui lui permet de s'imposer dans le débat politique. Pour donner un très court exemple, juste avant de faire Cache Investigation, j'ai fait un numéro de spécial investigation dont vous avez parlé tout à l'heure pour Canal+ sur le nucléaire où il y avait une révélation dans l'enquête qui était que EDF, lors d'un accident nucléaire en 1980, avait délibérément, et document à l'appui, rejeté du plutonium dans la Loire, qui était attenante à une centrale du Loir-et-Cher. Et c'était un délit à l'époque, c'est un délit toujours aujourd'hui. Ça a été révélé dans le documentaire. La ministre de l'Environnement, Ségolène Royal, avait promis une enquête. Aujourd'hui, l'enquête n'a strictement pas avancé. Je ne peux pas m'empêcher de penser que l'audience moindre en termes de public d'un spécial investigation a peut-être empêché que la réaction politique soit plus forte. Donc la force de Cache Investigation, c'est son audience et c'est pour ça qu'on peut espérer mettre ça à l'agenda politique.
Et justement, dans la balance, puisque c'est sa force, l'audience, et puisque cette audience, elle est aussi permise par la forme, par le caractère parfois, en effet, frappant, cette mise en scène, son côté un peu choc, il y a bien pire, hein, on est d'accord, mais ça existe tout de même. Est-ce que parfois, dans la balance, ça vous fait faire des choses qui, d'un point de vue de la forme, sont pas exactement de votre éthique journalistique? Vous voyez ce que je veux dire? Dans les choix que vous faites, dans la mise en scène que vous faites, est-ce que vous êtes toujours OK avec cette balance-là?
Tout ça se passe en salle de montage. Enfin, beaucoup de ces choses-là se passent en salle de montage. On essaye beaucoup de choses en salle de montage. On en garde certaines qui finissent à l'antenne. On en élimine d'autres. Mais je ne crois pas m'avancer en disant que tout ce qui est diffusé, le réalisateur qui a pris la responsabilité de l'enquête, le valide et parce qu'il trouve que c'est utile au message, etc. Donc non, moi, de mon point de vue, non.
Mais par exemple, pour évoquer très très rapidement l'utilisation de ce chiffre en effet choc, 97%, qui était sur le plateau à la toute fin de Cache Investigation, découpé dans du carton, mis en avant bien sûr, à la fois c'est ce qui est très frappant et ce qui en effet va faire circuler et générer beaucoup d'audience, et en même temps c'est un chiffre qui vaut une discussion, enfin une remise en cause pour éventuellement son imprécision.
Effectivement, il y a discussion sur ce chiffre de 97%.
Parce qu'on ne vous avait pas pris la peine peut-être de dire exactement ce qu'il contenait.
C'est-à-dire que, pour être très clair, c'est un chiffre qui nous a interpellés en début d'enquête. Chiffre qui vient de l'EFSA, hein, l'Agence européenne de sécurité. Voilà. Et ce chiffre-là, on l'a pris comme un point de départ. Aujourd'hui, effectivement, on dit qu'on n'a pas été assez précis. Et effectivement, on aurait peut-être dû dire dans le commentaire que 97% des aliments contiennent des pesticides en deçà des limites légales.
Mais ce serait moins choc que 97% tout court, non?
C'est peut-être, effectivement, on est peut-être allé un peu vite en besogne, mais pour notre défense, ce chiffre, il est sourcé. Donc on dit d'où il vient. Et par ailleurs, parce qu'on fait aussi de la télévision, donc il y a un commentaire, mais il y a aussi des images. Et sur l'image, on voit bien le site de l'EFSA et on voit bien que la phrase en entier. Voilà.
Sous-entendu, si le téléspectateur veut aller plus loin, il a les moyens de le faire.
Oui, enfin voilà, il n'y avait pas volonté de tromper, mais je pense qu'effectivement, on aurait peut-être dû rajouter cette fin de phrase. Mais pour le reste, l'idée principale qui était de dire, aujourd'hui on se rend compte qu'il y a des pesticides dans la majorité des aliments, reste vrai.
Celle-là, elle est bien passée en tout cas, cette idée-là.
Oui, mais en même temps, ce qui est dommage, c'est que c'est ce chiffre qui est passé. Mais c'est pas notre enquête. Notre enquête, elle porte pas là-dessus. Notre enquête, elle porte sur...
Les intérêts industriels,
sur le fait que, par exemple, on entendait un extrait tout à l'heure, que les données sur les pesticides ne sont pas rendues publiques. C'est quand même tout à fait incroyable. C'est aujourd'hui un secret d'État. Voilà, ça c'est important. Et on aurait préféré effectivement que l'accent soit mis sur le fait qu'aujourd'hui, il y a 65 000 tonnes de pesticides épandues chaque année en France. C'est ça le chiffre essentiel, c'est ça le chiffre important. Voilà, on est parti sur le 97%. Ça fait bien les affaires de nos amis lobbyistes. Ça leur permet de dire, voyez, Akash, il raconte n'importe quoi. Non, voilà, il y a une imprécision.
Bon, de toute façon, on va suivre puisque l'IB des Intox promet une réponse à la réponse.
Exactement.
Mamita, escucha la televisión, por Dios. A abusadora terrible.
Vous écoutez France Culture, Les Nouvelles Vagues, par Marie Richaud.
Nous avons quand même plein de questions à poser à la firme allemande. Mais on a beaucoup de mal à les joindre. Aucun membre de Bayer ne semble disposé à nous répondre. On va donc devoir la jouer finaux. Nous avons décidé de nous rendre à l'assemblée annuelle des actionnaires qui se tient à Cologne, en Allemagne. Interdiction de poser des questions si on n'est pas actionnaire. Alors, on a acheté des actions et on s'est mis sur notre 31... histoire de faire passer nos caméras. Opération réussie. L'agence Cash Tout Risque est prête. Marine Dekkers, le directeur général de Bayer, ouvre l'AG. 6 heures après le début de l'assemblée, la salle s'est un peu vidée. C'est enfin à nous de poser notre question sur le Folpel, le pesticide phare vendu par Bayer.
Bonjour, je m'appelle Élise Lucet, je viens de France, je suis actionnaire de Bayer. J'ai pris mon traducteur. Monsieur Dekkers, voici l'une des clés du succès de Bayer, le Mical Flash. Vous devez le connaître, c'est un pesticide qui contient du Folpel. Comme vous le savez, le Folpel est un cancérigène probable. Vous en avez vendu plus de 3000 tonnes entre 2008 et 2013 en France. On retrouve du Folpel dans l'air de presque toutes les régions françaises. Regardez cette carte. Nous avons trouvé du Folpel, pas uniquement près des champs, mais aussi dans les villes et villages et même près des écoles. Nos enfants respirent du Folpel. Aimeriez-vous que les vôtres respirent ce produit classé cancérigène probable quand ils jouent à l'école? Vous dites que Bayer a pour mission d'améliorer la vie des gens en soignant les maladies. Vous soignez les maladies d'un côté, et de l'autre, certains de vos produits contribuent à ces maladies. Avez-vous prévu d'arrêter la vente de ces produits? Merci de me répondre avec précision.
Vous posez une question concernant la protection de la nature et le Folpel. Madame Lucet, vous nous reprochez aussi de mettre en vente 50 produits en France qui seraient cancérigènes. En tant qu'entreprise de recherche mondiale, nous prenons notre travail très au sérieux. Oui, en effet, nos produits améliorent la vie des hommes. Et sans avoir vu la liste complète des produits dont vous parlez, je peux cependant dire que nous vendons dans le monde entier des produits qui ont été testés, en France et ailleurs, et qui sont sûrs pour l'homme et l'environnement.
Si vous avez été convaincu par la réponse du directeur général de Bayer, envoyez IA au 8 54 64. Si vous voulez que notre enquête aille plus loin que ces quelques éléments de langage, tapez 9. Merci de votre participation. Allez, on continue.
Et l'enquête continue, c'est un deuxième extrait de ce numéro Cache Investigation diffusé le 2 février consacré aux pesticides. On voit Élise Lucet, on l'a entendu, hein, c'est un montage que nous avons effectué. Elle est à l'estrade et elle prend la parole via son téléphone portable qui traduit sa question en allemand puisqu'on lui a demandé de s'exprimer et de s'exprimer uniquement en allemand. Donc pour que cette séquence soit possible, il faut que, je ne sais pas qui, Cache Investigation, Première Ligne ou France 2 soit actionnaire de l'entreprise de allemande. Ça veut dire que vraiment c'est illimité vos possibilités financières?
Alors, écoutez, j'ai oublié combien coûtait l'action de Bayer, mais elle coûte pas très très cher. Hein. On doit être de l'ordre de, je vais raconter n'importe quoi, mais de 200 euros. Hein. J'ai plus les chiffres en tête. Non, ça c'est pas très cher. Non, ce qui est compliqué, c'est effectivement la préparation. C'était la première fois qu'une assemblée générale de Bayer était filmée. Normalement, les équipes de télévision sont autorisées, elles ont été dûment accréditées et elles sont autorisées à filmer les premières minutes, à poser deux, trois questions aux responsables de Bayer, et puis après, elles sont priées de gentiment de vider les lieux. Là, voilà, il a fallu. Non, ce qui c'est pas d'acheter une action qui est compliqué. Vous pouvez acheter une action de la Société Générale, de n'importe quelle entreprise, qui soit cotée, bien sûr. Mais ce qui est compliqué, c'est toute la préparation de ce genre d'opération, quoi.
C'est une séquence qui met en relief, en effet, la fermeture du langage du PDG ou de la personne qui s'exprime, au responsable de communication d'ailleurs, davantage de Bayer. Mais c'est aussi une séquence qui déclenche un dialogue, puisqu'une personne qui est dans l'Assemblée décide de vous parler, prend contact avec vous et vous donne rendez-vous dans un café, donne rendez-vous à Martin Boudot et lui donne des informations. Qu'est-ce qui fait que les gens décident de vous parler? Qu'est-ce qui fait que les gens décident de vous parler à visage ouvert, à visage découvert? Quels sont les genres d'interlocuteurs que vous rencontrez lors de ces enquêtes? C'est un engagement qui est citoyen au même titre que l'engagement du journaliste?
Pas toujours. On a coutume de dire que dans les écoles de journalisme que toutes les sources qui vous parlent ont un intérêt à vous parler. C'est pas faux. Pour certains, l'intérêt effectivement est un intérêt citoyen. Pour d'autres,
c'est de foutre la pagaille.
Pourquoi pas, parfois.
Ou de régler des comptes.
Pourquoi pas, parfois, ça nous arrive. Ce qui n'atténue pas pour autant la véracité de leur révélation. Mais oui, il y a toutes sortes de personnes. Il n'y a pas de source type, il n'y a pas de fichier international des sources dans lesquelles on va piocher. Tout le monde peut devenir une source et au fur et à mesure que l'émission Cache Investigation avance, c'est vrai qu'on a moins de mal, mais du moins on a moins de mal à expliquer ce qu'on fait. Et les gens qui viennent nous parler, c'est vrai, il peut y en avoir un peu plus qui viennent nous parler parce qu'ils ont vu ce qu'on faisait.
Et on voit beaucoup de gens qui ne veulent pas vous parler, on voit beaucoup de mains mises devant la caméra, voire de serviettes de table, voire de matchs de basket et de services d'ordre légèrement musclés, au moins dans le regard. Est-ce qu'il y a des pressions qui s'exercent pendant l'année d'enquête? Par exemple, quand vous vous adressez ou quand vous travaillez sur des grands groupes industriels avec autant d'argent?
Non, moi en tant que reporter, que journaliste, qu'enquêteur, s'il y a des pressions, elles vont jamais jusqu'à moi. Mais je peux demander au rédacteur en chef qui est en face de moi. Je pense que les pressions n'arrivent pas jusqu'à lui non plus.
Non, elles sont plus fines. C'est qu'on vous dit attention à ce que vous dites. Il y a toujours effectivement la menace de la diffamation, du procès. Ça peut être dit parfois de manière explicite ou de façon beaucoup plus subtile.
Comment vous expliquez ça quand les intérêts s'élèvent pour ce cas-là, par exemple, à des échelles de millions, voire de milliards d'euros? Comment vous expliquez pouvoir travailler finalement aussi librement et révéler des choses aussi spectaculaires?
Je vais être un peu présomptueux, mais parce que je pense que, au nom de l'équipe, mais je pense que parce qu'on a fait la preuve de notre indépendance et que pas grand-chose qui pouvait nous arrêter. En dehors de, effectivement, voilà, si quand on était à la recherche d'une information, entre guillemets, de la vérité, on va pas s'arrêter.
Ça veut dire que ça leur fait pas peur?
Je sais pas si ça leur fait pas peur, faudrait leur demander. Si ça leur fait pas peur, je crois qu'ils répondraient plus souvent. Ils sont quand même très peu nombreux à répondre.
Je note une inflexion.
C'est vrai.
Je note une inflexion, c'est-à-dire que au départ les gens parlaient parce qu'ils connaissaient pas l'émission. Ensuite ils se sont mis à ne plus du tout parler. Et puis ils se sont rendus compte que c'était tout à fait catastrophique pour leur image de ne pas répondre. Donc là, ils ont plusieurs types de stratégies.
Les services de com.
Ouais, les services de com, très nombreux et omniprésents. Soit ils nous font le coup de ah oui, écoutez, on va vous répondre, il faut attendre. Donc ils sont un peu dans une stratégie dilatoire. Parfois, effectivement, c'est le silence. Là, du côté de chez des industries phytosanitaires, donc des industries du pesticide, c'était le silence complet. mais aussi parce qu'ils ne sont pas en contact avec les consommateurs. Enfin, c'est une industrie qui ne vend pas aux consommateurs, donc ils se sentent moins astreints à répondre, ils sont moins gênés, entre guillemets, je pense, par les révélations qu'on fait.
D'ailleurs, il y a une femme qui l'exprime très clairement en disant que les citoyens n'ont rien à voir dans les prises de décision de cette industrie, dans un micro qui lui est tendu, elle le dit mot pour mot.
Oui, elle le dit, l'avocate, effectivement, du Big Six à Hawaï, elle le dit, effectivement.
Il ne reste de réel que ce que j'ai par ailleurs appelé les icônes électroménagères, ce qu'on appelle plus correctement les médiateurs, journalistes, présentateurs, quand ils ne sont pas producteurs, qui se sont un peu, sinon totalement, appropriés l'espace, à défaut de paysage, et qui sont devenus les grands récitants de l'histoire, avec ou sans majuscule, qui aujourd'hui n'ont de cesse que d'être les héros d'une fiction qui s'appuierait sur le scénario de la réalité, mais s'appuierait seulement. Je crois que dans une conversation, vous avez dit, effectivement, une fiction qui ne nous raconterait jamais d'une certaine façon. Je suis absolument de cet avis. De telle sorte que, quand il s'agit de réel à la télévision, il ne peut y apparaître que quand il a les plumes de la fiction, c'est-à-dire quand il a du sensationnel accroché à ses basques ou un intérêt pathétique, que phagocyte immédiatement le grand scénariste, le grand récitant, mais davantage finalement pour lustrer son discours que pour nous ouvrir l'œil sur la réalité.
1987, ces mots sont de Raoul Sangla, un autre grand bonhomme de la télévision, journaliste, scénariste et réalisateur indépendant français. C'est une archive diffusée sur France Culture dans l'émission Microfilm et il s'entretient avec Serge Danet. Il n'y a de réel à la télévision que si elle est les belles plumes de la fiction et il n'y a de réel possible que si elle a un côté ou bien pathétique ou bien sensationnel. Ça veut dire que par exemple, dans vos choix de sujets pour Cache Investigation, ce caractère sensationnel, il est inévitable, il est très important.
Non, parce que, pardon, mais quand on fait une enquête sur les pesticides...
C'est sensationnel, cette enquête, non ?
Elle pose question, mais elle n'est pas sensationnelle. On ne cesse tout au long, Martin Boudot ne cesse tout au long de son enquête d'interroger des scientifiques. Il y a plus sensationnel quand même. Hein.
Oh bah c'est pas sympa pour les scientifiques.
Non mais vous parlez de sensationnalisme.
On peut faire du sensationnel avec des scientifiques quand on parle des comètes ou quand on va sur Mars, c'est sensationnel. Vous voyez ce que je veux dire, c'est le caractère spectaculaire en fait.
Oui, mais on est allé voir des gens de l'INSERM, on est allé voir des scientifiques à Berkeley, on est allé voir des scientifiques à l'université UC Davis. Je pense pas que voilà, ils sont pas en train de faire le show là. Ils nous expliquent le résultat de leurs études épidémiologiques et bon, c'est pas très simple quoi.
D'accord. Et pour vous, le choix des sujets ?
Le choix des sujets, non. Il suffit de lister les sujets de Cache Investigation depuis 4 ans.
Par exemple
L'évasion fiscale.
C'est sensationnel.
Plusieurs fois. C'est sensationnel.
Le pouvoir des actionnaires, c'est sensationnel.
C'est complexe.
Donc non, je crois... Il n'y a aucune demande de sensationnel. On a juste la volonté de parler à un grand public. Ça, c'est vrai. On a raison... Tenter de parler à un grand public, mais ça n'a rien à voir avec le sensationnalisme.
On peut parler démocratique.
On peut parler au grand public en lui parlant de choses très sérieuses. C'est possible à la télévision en 2016. C'est possible.
Et je crois que le public nous attend là-dessus, sur des enquêtes compliquées, un peu techniques, qu'on va leur raconter avec de la malice, qu'on va leur raconter avec un brin de dérision, voilà.
Et vous le racontiez tout à l'heure, des longues émissions, c'est-à-dire que non seulement elles sont complexes, elles brassent des chiffres, elles brassent ce que vous dites, en effet, de la complexité de construction et des enquêtes systémiques, mais aussi c'est un documentaire et une soirée, puisqu'elle se finit par un plateau qui fait 2 heures. Est-ce que vous avez des études d'écoute sur la longueur pendant laquelle restent les téléspectateurs, jusqu'au bout ?
Alors, on va pas rentrer dans les calculs d'audience parce que nous on n'a pas envie de rentrer là-dedans. Bien sûr, ça a de l'importance pour la chaîne. Nous, on nous donne effectivement la possibilité de nous exprimer, enfin de travailler sur un temps long. On en est ravi. On le prend comme tel. Après que ça arrange France 2 qu'on fasse long. Probablement, très probablement.
Non, c'était pas le sens de ma question. C'était savoir est-ce que vous savez si les auditeurs, les spectateurs restent pendant les 2 heures.
Difficile de savoir si un téléspectateur reste jusqu'au bout, mais oui, les courbes nous montrent que les gens restent et ne décrochent pas, quoi.
Dans le propos de Raoul Sangla, il était aussi question de l'incarnation de ce réel-là. Alors il se trouve que à la fois Martin Boudot, qui est le réalisateur, hein, mais c'est donc ce journaliste qui fait l'enquête, à la fois Élise Lucet, qui intervient énormément dans ce documentaire, incarne vraiment l'enquête comme une sorte de voilà figure, même parfois Élise Lucet avec un imper beige, on pourrait considérer une sorte de d'inspecteur Élise Lucet.
Elle s'habille comme ça.
C'est très important. On peut pas passer à côté de cette incarnation aujourd'hui. La voix off du documentaire, ça suffit plus, ou voire pas de voix off du tout?
C'est une des techniques, alors on peut en discuter très longtemps, mais c'est une des techniques que l'on utilise pour essayer de parer à cette longueur des enquêtes et à cette complexité des enquêtes. On pense, d'une manière générale, que c'est peut-être un outil intéressant d'avoir le journaliste avec soi, d'avoir un personnage entre guillemets auquel se raccrocher, qui mène l'enquête et qu'on suit mener l'enquête. On a l'impression, peut-être qu'on a tort et dans ce cas-là on changera, mais on a l'impression que l'enquête passe mieux quand on regarde quelqu'un faire une enquête. Voilà, c'est pour ça qu'on le fait. C'est pas pour des questions d'ego ou des questions de vêtements matériels, mais on pense que le message passe mieux comme ça.
Est-ce que c'est une question de transparence, puisque la question de la transparence et du rapport à la méthode et aux données est aussi au cœur de Cache Investigation? Est-ce que c'est aussi une façon de dire voilà comment on travaille?
Aussi, je pense que c'est montrer l'engagement du journaliste, du réalisateur, d'Élise Lucet dans le travail qui est mené. Ça permet aussi de voir comment sont posées les questions, les difficultés auxquelles ils sont confrontés pour avoir accès à l'information. Parfois, ça peut nous permettre de montrer les flops de l'enquête. Voilà, donc c'est aussi c'est un instrument, comme le disait Jean-Baptiste très justement, c'est un instrument narratif intéressant.
Je citais, et vous le rappeliez, Emmanuel Galli, que ça a été très commenté. En même temps, c'est un magazine d'investigation diffusé sur France Culture, ce spécial investigation qui s'est vu refuser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sujets par la nouvelle direction Bolloré. Vous disiez à l'instant, Jean-Baptiste Renaud, oui, c'est possible aujourd'hui à la télévision française de faire des longs formats, complexes, de faire aussi des longs formats qui éventuellement remettent en cause des intérêts massifs politiques et financiers. Alors, ça veut dire que d'un côté, ce serait vraiment impossible et d'un côté, ce serait vraiment tout à fait possible.
Il faudra voir avec le temps. L'émission spéciale investigation dont vous parlez, elle continue sur Canal+, elle continue aujourd'hui. Donc, je ne sais pas quels sont les sujets qui vont être traités. Laissons le temps de voir quels sont les sujets qui sont traités. Et après, c'est vrai qu'en comparaison, nous, on n'a pas cette charge au-dessus de nos têtes. On a un service public et un diffuseur qui nous laisse totalement libre. Donc le parallèle est vite fait. Après, pour autant, l'émission spéciale investigation continue. Donc, à nous de voir ce qui sera proposé dans les enquêtes qui vont venir.
Ça fait possiblement toute la différence, télévision publique et télévision privée, sur ce domaine-là?
J'ai envie de dire oui. Pour avoir travaillé et dans le privé, en télévision privée et en télévision publique, il y a beaucoup plus de liberté dans la télévision publique. Aujourd'hui, c'est un espace de liberté absolument essentiel. Voilà, et je pense qu'il faut absolument le préserver et que ça dure. Parce que quand vous êtes dans une télévision privée, ben vous êtes soumis à la règle de l'annonceur. C'est l'annonceur qui finance. Et donc, si on tape sur l'annonceur, vous risquez de perdre l'annonceur. C'est aussi simple que ça.
Et du coup, ça contraint.
Et ça contraint. Ça peut contraindre. Et en tout cas, le combat pour l'information est plus complexe.
Isabelle Roberts et Raphaël Garrigos disaient hier leur très grande difficulté à enquêter sur la fabrique de la télévision contemporaine et qui plus est sur le système et la prise de pouvoir de Bolloré à Canal+. Ça pourrait être le sujet d'un Cache Investigation, l'argent dans la production télévisuelle?
Je vous cache pas qu'on a envie de le faire, mais c'est compliqué effectivement. Et puis est-ce qu'on est parler de soi, c'est toujours difficile.
Parfois c'est intéressant.
Parfois c'est très intéressant, mais c'est difficile. Mais c'est vrai que c'est un sujet qu'on a évoqué avec l'équipe.
Et alors vous en êtes où?
On y réfléchit. Il y a une saison de Cache qui est en cours. On verra au moment de la suivante, quand la suivante sera lancée.
Et votre hésitation, elle se situerait où sur ce sujet-là précisément?
C'est compliqué parce qu'on est à la fois jugé parti, voilà, tout simplement. Donc on pourrait toujours nous accuser. Attendez, mais vous avez parlé de ça, mais pas de ça, etc. Donc voilà, c'est ça la complexité de ce sujet. On n'est pas du tout dans une position de neutralité.
Vous regardez la télévision tous les deux ?
Je regarde la télévision, mais surtout en replay. Ouais.
Sur quelle machine ?
Sur un ordinateur, pas sur une télévision.
Et vous ?
Moi, je regarde la télévision, mais de manière, je regarde les mags d'info, je regarde les séries, et je regarde parfois le sport.
Sur quelle machine ?
Je suis assez classique, sur ma télé.
Vous écoutez France Culture, Les Nouvelles Vagues, par Marie Richaud.
Il est 14h50 sur France Culture. Depuis la saison dernière, nous rencontrons toutes sortes de personnes pour leur demander de nous raconter des moments qui ont marqué leur parcours et qui ont initié, selon eux, des nouvelles vagues, alors de pensée, de vie et pourquoi pas de création. Cette semaine, on a proposé l'exercice à la comédienne Charline Grand. Et au micro d'Inès Duperron, aujourd'hui, elle raconte un trajet.
Ça se passe en Afrique. C'est pas la première fois que j'y vais. Mais cette fois-ci, c'est spécial. Il faut marcher. Il faut marcher pour aller travailler. C'est même, je pourrais dire, un choix. Je décide, on est quelques-uns à vouloir le faire, au lieu de prendre des taxis brousses, qui sont en plus dans des états assez lamentables. Les voitures font un petit peu peur là-bas, parce que on va monter sur la colline du point G, ça se passe à Bamako. Si on choisit d'y aller en voiture, ça prend 45 minutes. Si on choisit d'y aller à pied, ça prend 45 minutes aussi. Et c'est pas le même trajet. Alors c'est un trajet qui est plus difficile parce que ça va monter, que ce sont des sentiers qu'on va tous les jours prendre des sentiers pour aller travailler. Et pourquoi ça me touche, c'est que c'était pour moi une façon, je crois, de me concentrer et qui est restée. On peut pas faire ça au théâtre quand on est dans une salle fermée. Mais là, c'est un travail qui se passe à l'extérieur. Et ce n'est pas du théâtre de plein air et c'est pas du théâtre de rue. Ça s'appelle du théâtre paysage. Et l'idée, c'est de s'installer avec un angle de vue précis. Par exemple, on travaillait sur un mur de l'hôpital de la colline du Point G. Un mur qui fait 2 mètres de haut où on avait 60 centimètres pour pouvoir être debout. Et la scène, c'est ça. Et il y a un coin de mur et on répète tous les jours. Et comme on répète tous les jours et que c'est ouvert, les gens viennent voir. Les gens sont avec nous, les gens connaissent le texte. Et si je reviens à mon trajet de départ, c'est que sur ce trajet, on voit les choses qui vont nous nourrir pour aller parler, dire des choses, mais on rencontre surtout des gens. Il n'y a pas besoin de... C'est pas une histoire de publicité de dire « Nous, on fait ça, venez nous voir. » C'est que le lien se fait. On va acheter une cola, on va acheter un paquet de cacahuètes, et puis après, c'est eux qui ont une curiosité de « Mais qu'est-ce que tu fais, toi, Blanche, à cet endroit, à 8h du matin, à gravir la montagne ?»« Je vais faire du théâtre. » Il y a un théâtre ? Non, il n'y a pas de théâtre. Mais si tu veux, accompagne-moi. Et donc, on part à deux. Et puis souvent, j'ai travaillé pendant un mois là-bas. Souvent, on arrivait avec des ribambelles d'enfants ou même des gens, parce qu'il y a des agriculteurs, il y a des femmes qui ramassent des espèces de sarments de bois qui sont avec leurs petites haches, qui nous suivent aussi. Et du coup, le public se rassemble naturellement. Et c'est plus tellement important, en fait, la représentation. C'est le trajet nourrit autant que ce qui va se passer après en répétition et les plus grands moments de théâtre et de vie se sont faits par ces trajets parce que on se déposait ensemble, je sais pas comment dire, on arrivait à terme et on commençait la répétition, puis ils étaient là et puis on boit du thé et puis tout est très ouvert et il y a plus cette frontière scène-salle et chacun est là où il doit être. Et je crois que ça m'a beaucoup apporté parce que encore aujourd'hui quand je vais quelque part pour faire quelque chose, le trajet est devenu important. Je ne trouve plus ça long. J'aime ce temps-là. Et ça m'aide à après peut-être pouvoir parler, vivre. Et c'est passé à l'intérieur de moi. Et je vais pas prendre les choses de la même manière quand je vais être ancrée quelque part. Il y aura eu ce petit passif. Voilà, ça c'est quelque chose qui restera très important pour moi.
L'histoire de mon impossible retour sur Miles Davis, c'est So What the Kind of Blue. C'est vous qui l'avez choisi, Emmanuel Gagné. Rapidement, pourquoi?
Parce que c'est, j'ai toujours adoré Miles Davis, le son de sa trompette et voilà. Et pour moi, écouter Miles Davis, ça m'emmène ailleurs.
Jean-Baptiste Renaud, Emmanuel Gagné, merci beaucoup d'avoir
merci
été avec nous
merci
cet après-midi. Le numéro de Cache Investigation dont on a parlé, alors évidemment on n'a pas parlé de tout dans cette enquête, mais voilà, le reste est à voir sur, en replay sur PLUS, le site de, comment on dit en français, de relecture des programmes de France Télévisions.
Oui,
de rattrapage.
De rattrapage, de réécoute.
Vous pouvez nous dire sur quoi vous travaillez, Jean-Baptiste Renaud, ou ce sera à voir?
Je ne peux pas.
Vous ne pouvez pas? Eh bien, très bien, ce sera pour le prochain numéro. Merci beaucoup. Les nouvelles vagues sont terminées pour aujourd'hui. On peut les réécouter, on peut se rattraper sur le site franceculture.fr et s'abonner au podcast. Pour se parler, le même site franceculture.fr, Twitter et Facebook fonctionnent aussi. Merci à Romain Debecq de Lièvre, Inès Duperron et Alice Ramon qui pensent et préparent cette émission avec moi. Une émission réalisée par Somanina, avec aux manettes aujourd'hui Jean-Frédéric et au droit d'auteur Lee Torquia. Dans un instant, la compagnie des auteurs.